des vies françaises. Maintenant à 6h11 et une rencontre ce matin avec Magali Panova.
Alors Magali, elle a 42 ans, elle est traductrice et intervenante à la protection de l'enfance. Elle a elle-même été placée en foyer de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, à l'âge de 12 ans et elle a été déscolarisée dès son entrée au collège.
Et c'est l'histoire d'une enfant maltraitée, d'un placement raté. Elle prend la parole aujourd'hui pour tenter d'améliorer la prise en charge des enfants placés.
Moi, je voulais faire des études longues. Moi, je voulais être Indiana Jones, quoi. Je voulais faire des super longues études et puis voilà, être capable de décrypter la pierre de Rosette, quoi. Enfin... Bon, je sais pas que moins 10, mais...
Ah, je vous réveille pas.
À moi, oui.
Vous étiez en train de travailler sur quoi?
La traduction d'un livre d'un auteur russe qui n'a jamais été traduit en français. Vitaly Bianchi, ouais. Et qui a fait, c'est un naturaliste qui a fait, on pourrait presque dire, de la vulgarisation scientifique pour les enfants.
C'est le livre qu'il y a là, hein?
Oui,
illustré.
Ouais, il est magnifique.
Ah, c'est un vieux livre.
Ouais. Lesne Novosti, c'est les dernières nouvelles de la forêt.
Vous parlez russe?
Oui, oui, mon ex-mari est russe. Et donc j'ai appris le russe. Ce qui m'a permis après de passer une licence LEA, russe et anglais, en VAE.
VAE, c'est...
Une validation des acquis par l'expérience. Ça permet d'obtenir un diplôme un peu comme un candidat libre, quoi, à peu près. Quand on vient de l'ASE, on ne peut pas prétendre à faire des études. On nous dit non, mais rêve pas, quoi. À 18 ans, il faut que tu sois OP, il faut que tu aies un appart, machin. Non, les études, laisse tomber, quoi. Tu peux pas te permettre. Et c'est affreusement frustrant. Parce que c'est pas non plus, c'est pas une fierté de passer par l'ASE. Non seulement c'est pas une fierté, mais il y a tout un schéma de la honte, en fait. Parce qu'on voit bien qu'on est différent. Et on a l'impression que ça fait partie de nous, qu'on est des choses honteuses. Parce qu'on vient de famille merdique et que tout est conditionné à notre capacité de survie. Quand on nous rabâche ça depuis qu'on a 10 ans, on l'intègre bien, quoi.
Ça, tu veux quelque chose, Michel? Non, tu veux rien.
Super, merci.
Il y a de la plaque rouge pour le club.
Ah, elle a mis des pains au chocolat?
Parce que vous, du coup, vous êtes né où?
Je suis née à Nancy.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, vous, vos parents?
Alors, ma mère est handicapée, donc elle travaillait en CAT, en centre d'aide par le travail. Elle avait une insuffisance thyroïdienne, donc ça a vachement influé sur son développement psychique et moteur. Et mon père, je sais pas, il est parti. J'étais toute petite, je sais pas trop ce qu'il faisait. En fait, c'est mes grands-parents en fait, qui m'ont élevée, principalement ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait un salon de coiffure. Elle n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. Et j'étais très libre, en fait. Peut-être on pourrait considérer assez seule, mais moi, c'est quelque chose qui m'allait très bien, en fait. J'ai toujours été assez solitaire. J'avais pas de frère ni de sœur à l'époque. Voilà, quoi, j'avais ma grand-mère, tout allait bien.
Vous alliez à l'école?
Oui, l'école, c'était plus compliqué, mais... J'étais en maternelle, hein, donc j'étais toute petite, quoi. Mais je voyais que les jeunes à la récré, ils jouaient tous ensemble et tout. Et je comprenais pas, en fait, comment ça se mettait en place. C'était complètement dingue. Je me disais à chaque fois, mais c'est pas possible. J'ai loupé le moment quand les groupes se forment. Du coup, bah voilà, quoi. J'allais jouer dans la pelouse. J'allais m'intéresser aux insectes, aux fleurs, aux machins, parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait. Je me voyais pas juste aller vers eux et commencer à jouer.
Vous aviez pas de copine?
Non. Non, du tout, non. Non, et en fait, ma famille n'avait aucun contact avec personne. Et ça vient de là, en fait. Enfin, après coup, maintenant, je comprends bien le truc, mais jamais personne d'extérieur à ma famille, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire ma famille, ça se limitait à mes deux grands-parents, ma mère et moi, et mes cousins-cousines qui venaient les week-ends ou les vacances, mais c'était, voilà, on se voyait... il n'y avait jamais personne qui rentrait qui passait le seuil de la maison, donc j'avais jamais l'occasion de voir une nouvelle tête et de voir les interactions en fait qui pouvaient se créer, comment on faisait pour aborder quelqu'un qu'on ne connaissait pas, comment on faisait connaissance avec quelqu'un, et je les ai jamais vus aller nulle part non plus, quoi. Donc pour moi, enfin, ça n'a rien de naturel d'aller vers quelqu'un.
Comment ça se fait, ça, fin, que votre famille elle était aussi recluse? Il y a des raisons ou c'est juste des gens qui n'aimaient pas trop se mêler aux autres?
Bah, en fait, on a une histoire de la protection de l'enfance qui est complètement transgénérationnelle. Mon arrière-grand-père, en fait, était de l'assistance publique. Et apparemment, il en est ressorti pas hyper bien dans ses pompes. Et il a fini par se suicider en laissant sa femme avec ses 7 enfants. Et mon grand-père était... Il a eu un pète au casque bien sévère, le grand-père. C'était quelqu'un d'excessivement violent avec tout le monde. Il était... Même avec moi, il m'a tiré dessus la carabine, quand même. Il a tabassé ma grand-mère pour pas qu'elle parte. Qui a fini par même se taire, par être finalement complice, en fait. Parce que quand il a tabassé probablement plus ses enfants, elle a abandonné. Et quand il a tabassé ses petits-enfants... et que ces deux filles ont tabassé leurs enfants, elles fermaient les yeux, quoi. C'était leur normalité. En fait, un enfant qui est maltraité, s'il le reproduit plus tard, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, c'est sa normalité à lui. Être maltraité, c'est normal, puisqu'on a été éduqué comme ça, qu'on n'a rien vu d'autre. D'où le fait que ma mère et ma tante aient fait pareil avec leurs enfants, quoi. Donc la moindre contrariété, la moindre... question, si elle n'était pas d'humeur, ben voilà quoi. Je faisais pas les choses assez bien, je faisais pas les choses assez vite. Tout était prétexte, tout.
Quand vous êtes partie de chez vos grands-parents, vous êtes retournée chez votre mère. C'est elle qui a demandé à vous récupérer.
Je ne sais rien. Ma mère m'a récupérée sur les coups de 5 ans pour m'emmener du coup à Metz, parce que son CAT du coup était à Metz. Et en gros, si j'ai bien compris, dans la foulée, elle m'a fait place en famille d'accueil. D'où l'intérêt de me récupérer. Je me vois encore avec elle passer une grosse porte en bois dans un vieux bâtiment, monter des escaliers, arriver devant la porte, ma mère est dans mon dos, elle toque, il y a la porte qui s'ouvre, elle me pousse à l'intérieur. Elle, je la vois pas entrer en fait, la porte se referme et je suis avec des gens que je connais pas. Un homme qui fait des menottes dans une peau d'orange... Enfin, des mains d'hommes, parce que je vois pas le visage. Et moi qui reste là pendant un temps assez long. Aucune explication, rien. Je suis juste une potiche qu'on déplace d'un point A à un point B. Donc ma mère m'a récupérée sur les coups de 6 ans. Et je suis restée avec elle jusqu'à l'entrée en 6e. Donc sur les coups de 11 ans, quoi.
Pourquoi vous avez été placée,
déjà ? Mais je sais pas. Putain, c'est dingue, quoi. J'en sais rien, parce que... Je ne saurais jamais vraiment de façon factuelle si ma mère en a fait la demande ou si c'est le fait d'avoir reçu des signalements, parce que ma mère a été signalée par les voisins et tout, parce que ça hurlait, parce que... Et ça, je vois, c'est écrit, parce qu'elle me menaçait de mort, qu'elle allait me tuer. Et puis parce que, en fait, tous les midis, quand les autres entraient pour manger, ma mère n'était pas là et elle ne m'inscrivait pas à la cantine. Donc je passais tout le repas de midi assise en face de la porte, quoi, à pas manger. Et puis du coup, tout le monde passait, voyait bien que je rentrais pas chez moi et que je mangeais pas non plus. J'attendais que ça se passe, la boule au ventre, en essayant de pas pleurer, quoi, parce que c'est juste la honte, en fait. Elle est où votre mère? Vous n'en savez rien. Pourquoi c'est comme ça alors que tout le monde rentre chez soi? J'ai appris à faire en sorte d'être transparente, pour ne pas attirer les coups, pour ne pas attirer les vexations, les brimades. Mais au bout d'un moment, j'ai bien compris que j'avais grandi et que sa force était toute relative et que j'avais aucune raison de subir ça, en fait. Donc quand je me suis mise à arrêter les coups, à attraper sa main en plein vol, à arrêter ce qu'elle avait dans la main en plein vol, après, il y a ma demi-sœur qui arrivait au même moment. Donc, est-ce qu'elle s'est pas sentie dépassée par le fait d'accueillir un nouvel enfant avec avec qui ça se passait déjà pas bien? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Après, ma mère, fondamentalement, moi, je la craignais plus, quoi. En foyer, j'étais pas plus heureuse, hein. Ils auraient mieux fait de me laisser avec ma mère, en fait. Au moins, j'aurais continué l'école. J'adorais ça, c'était chouette. J'étais bonne et... J'aurais peut-être pu faire les études que je voulais faire. Au moins, j'aurais pas été déscolarisée. Je suis furieuse contre eux, en fait. C'est c'est complètement dingue, mais de ce point de vue-là, je suis furieuse.
Des vies françaises, portrait sonore signé Charlotte Perry et mise en onde par Charles de Cilia. La semaine prochaine, nous retrouverons Magali Panova pour la suite de cette rencontre.